Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Jean-Loup Grosso et
Roger Content,
sans oublier
Tom un peu mouillé.
Ouais, un peu mouillard. Justement, puisque je vous tiens, Tom, ok, vous avez un scooter 300 cm3, vous veniez avec votre blouson de scooteriste, vous avez même rajouté Tom Moto Club derrière,
oui.
Un truc personnalisé.
Oui.
Bon, alors, derrière le comment ça s'appelle, la console, ça allait, mais si aujourd'hui vous pouviez enlever votre casque, hein, parce que pousser jusqu'à là, cet amour du deux-roues, quoi. Là,
ah ouais, mais c'est tombé amoureux complet, là.
J'ai l'impression d'avoir un mec des Daft Punk.
Alors,
quoi,
moi,
en face de moi.
Sur sa moto, il manque quand même le bon décalco de pin-up.
Oui,
vintage.
C'est à rajouter.
Je vais
c'est
vous vrai. Trouver ça et je vous offrirai ça pour,
ouais.
Pour votre moto. Et moi, Roger, content, personne ne me demande pourquoi je suis content.
Bah
moi,
parce qu'on vous a acheté.
Ouais, on m'achète. Alors, on peut m'acheter, c'est assez facile, un briquet, une casquette, un t-shirt, de quoi rester propre. Et ben, c'est monsieur Blam Blam. Et ben, régulièrement, il vient nous faire des cadeaux et je suis très content. J'adore les cadeaux de Blam Blam, des compilations. Là, c'est les, comment on nous l'a mis en double en plus. Soulful Time versus Blam Blam, volume 15, plus un groupe qui s'appelle les Lulises avec comment produit. Alors ils sont quatre.
Bah ils viennent en
mauvais soir. Les titres sont en français. Voilà. Bon. Merci Blam Blam.
Je peux finir Est-ce que je pourrais finir ma phrase de présentation
Oui, oui,
mais
bon, allez-y. Sinon, ne me demande pas pourquoi je suis content.
Pour dire qu'après 15 jours de vacances bien mérités, on arrive quasiment à l'heure, mais bon, c'est comme ça à Rennes, ça bouchonne.
Ouais,
vous écoutez
dingue,
les Grignoux tous les mercredis de 20h à 21h30, voilà, ça commence à rentrer dans mon esprit. Et le mercredi, parce que j'ai vu sur les mails de Canal B, c'est à 15h, de 15h à 16h30. Ou sinon, vous tapez les Grignoux
oui,
sans,
y a tout.
Sans as, pas d'ati, pas d'ata.
J'ai jamais compris votre passion pour raconter ça. Ouais, tous les mercredis.
Bah,
tout le monde s'en bat les
Il y a deux choses que j'ai dis dans l'émission, c'est Jean-Loup Grosso, etc. Et la deuxième chose que je dis, c'est à la semaine prochaine.
Vous allez avoir sûrement plein de choses à dire, je vous fais confiance.
Oui,
j'ai
des choses à dire,
suite.
Mais un petit disque.
Ouais, par rapport sur la programmation à Roger, que je vous dédie, mon bon.
Oh, vous êtes trop gentil.
Oh ouais, vous avez souffert de la tempête, ça m'a fait plein de misère. J'aime pas voir les arbres arrachés, j'aime pas voir
c'est
les...
C'est la rudeur du Trégor, hein,
ouais,
que je
j'aime
vous
pas voir les lieux que j'adore, comment un peu ravagés. Et puis, alors, moi, les putains d'arbres. Alors, on avait un débat là-dessus. Moi, qui suis façon lézard, c'est
ça,
vrai que...
Ça, on peut pas dire le contraire.
Hein, façon lézard, et je disais, il faut chier les arbres, il n'y a plus de soleil. Et vous me rappeliez qu'effectivement, un peu d'ombre, ça ne nuit pas, que ça crée un certain décor, pas vilain, du coup, d'ailleurs. Et voilà. Et puis, la tempête, a clos le débat, puisqu'il y a combien 80% des arbres en dessous chez vous qui ont été abattus
Un paquet, ouais. Là, il commence à être un peu vieillissant. Et juste pour terminer là-dessus. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit du bled dont je suis originaire, qui s'appelle Trévoux-Tréguignac, mais plus connu sous le nom de Trestel. Les photos des années 20, 30 de la plage, que c'est juste à côté de la plage, il y a pas un arbre, ouais. Rien.
Mande les arbres ont été plantés, on va dire, je dirais à peu près
c'est
un
après
siècle,
la guerre, hein, pour
ils
moi.
Ils sont grands, ils étaient beaux. C'était quand même des arbres majestueux.
Sa vie, d'après mon beau-frère qui est un spécialiste, il dit un sapin comme ça vit à peu près 80 ans.
Ah ouais.
Et quand vous calculez années 50,
il faut remonter avant-guerre.
Mais
en tout cas, c'est bien dommage de voir tout ça ravagé. Donc un petit disque que je vous dédicace,
oui,
ça s'appelle Marijuana, et c'est interprété par...
Révérend Horton Heat.
Voilà, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas écouté, même j'ai rajouté.
C'est pas
parti.
Le même révérend, il y en a plein, je vous dis.
C'est trop gentil. En plus, ça durait quoi, 2 minutes 10 2 minutes 20
Comme prévu,
quoi.
Un morceau speed, vous lancez l'émission, vous donnez envie aux auditrices et auditeurs de vous accrocher, d'autant qu'en plus, maintenant, vous allez nous annoncer le programme.
Ouais, bah justement. Allez, je vais être honnête, c'est un peu grâce à vous que j'ai sorti un vieil article en me disant ah, « Jean-Loup, toi qui aimes bien les bestiaux, tu veux pas t'occuper de ça ?» Il m'a balancé l'article à moitié dans la figure. Et encore, je caricature à peine, quoi. Et puis moi, je me suis dit bah, « Bien sûr, en plus, c'est vrai que je trouvais le sujet hyper intéressant. »
Vous avez un côté « mémère à chat, pépère à chien ».
C'est-à-dire ?
Oh ben moi je vous imagine bien comment ah, j'imagine avec
bestiaux,
des chaussons
ah, j'aime bien les
avec des chaussons entourés de bestioles comment en jogging dans votre cuisine non
bah après bon, c'est vrai que des bestioles aujourd'hui et puis enfin je sais pas c'est pas du tout le même statut ce soit chien chat qu'ils avaient il y a 50 ou 60 ans quoi c'était plutôt rude on va dire que ce soit avec les chats ou les chiens bref on va accueillir une association qui s'appelle les Gamelles Pleines et leur idée elle est géniale. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est-à-dire faire des maraudes, comme on dit, mais pour s'occuper des chiens des SDF. Et pas seulement des SDF, c'est des gens précarité, qui n'ont pas de sous, RSA,
désemparés. Quand on connaît les tarifs prohibitifs des vétérinaires.
Ouais, bon, ça, on en parlera. Quoi. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Et donc, on va voir vers 20h45 à peu près, Yann, si je prononce bien, parce que c'est d'origine écossaise. Et
vous êtes fait un petit peu ces dernières semaines une spécialité de massacrer le nom des invités. Vous savez qu'on a eu des plaintes.
Mais ça s'écrit I-A-N. Comment vous prononcez ?
Il vous a dit quoi ?
Yann ?
Eh bien, vous dites Yann.
Ouais, mais vous savez, avec l'âge, j'ai peut-être des problèmes auditifs.
Donc, vous savez quoi ? Sous prétexte que ce n'est pas marqué Yann avec un Y, vous allez appuyer sur le I comme un malade.
Yann.
Yann.
Un allez... peu à la bretonne, quoi. Là,
Yann, vous allez l'appeler ?
Bah, je sais pas, je vais lui demander. Je vais lui demander quand
moi,
il sera.
Moi, je serai lui, je viendrai pas.
Et Laurent aussi, qui viendront nous parler de cet asso que je trouve vraiment remarquable.
Un asso national, je crois.
Ouais, quasi national. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a 9 points sur toute la France. Ouais, je crois que c'était typiquement rennais. Et non, il y a quelques villes. Alors, c'est pas, elles sont pas suffisamment nombreuses, malheureusement. Enfin, pour moi, quoi. Et bref, ils nous parleront de tout ça, parce que je n'aurais jamais eu cette idée-là et pourtant j'aime bien les bestiaux. Voilà. Un petit disque.
Check. C'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, mon Dieu de bordel?
Ah, oh, mais c'est la rubrique à Roger!
Eh bien voilà. On va commencer tout de suite. Normalement, c'est censé être ma rubrique, mais vous imaginez bien qu'il bouille, il bouille. L'actualité n'arrête pas de faire revenir sa bouillure sur notre ami la mélange. Et puis moi aussi, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de mettre, de pisser aussi dans le seau avec l'histoire de la mère Garrido. Je sais pas si vous avez suivi
oui,
un peu l'actualité.
Oui, elle a été virée 4 mois comme 4 nains.
Ouais, la mère Garrido que je pensais être... elle faisait d'ailleurs partie du premier cercle. Elle avait soutenu la campagne à fond de Mélenchon, les 2 dernières campagnes, et voilà Tipa, ça faisait quelques mois que je voyais commencer à rouer dans les brancards, et puis elle a eu cette déclaration malheureuse de dire effectivement la Mélenchon, elle a dit pas la Mélenchon, elle a dit Mélenchon.
Mélenchon, moi j'appelle ce
Mélenchon ne fait que nuire au parti, il nuit à l'union de la gauche, et puis elle a parlé de dire que ça serait peut-être bien qu'un jour il prenne sa retraite, ce que Ruffin a dit également aussi en termes plus pondérés, en rappelant qu'il avait dit que 2022, ça serait sa dernière campagne, et qu'on verra s'il tiendra ses promesses. Hein, chacun sa façon de causer. Sauf que la mère Garrido, elle a pris 4 mois fermes, et 4 mois fermes, ça nous renvoie à la peine qu'a pris l'ex-surdoué, celui qu'on pensait être le dauphin de la Mélenche, Adrien Quatemins, qui a pris 4 mois, lui pour des choses qui n'avaient rien à voir, mais qui sont...
Oh, une petite claque, il est énervé.
Ouais,
oh
dans le privé un peu glauque quand même, c'est que un parti qui est de gauche, féministe, etc., il avait quand même un peu, il a même giflé comment sa compagne, et il a été condamné à 4 mois, il a été... Qu'est-ce qu'il a été condamné? Je ne sais même pas, parce qu'il faut pas qu'on dise de conneries.
Il a pris du sursis. Hein.
Il a pris du sursis.
Oui, oh, une claque.
Donc
hein,
les faits ont été reconnus et il a pris 4 mois où il a été. Alors ça veut dire quoi? Vous faisiez bien de le rappeler, Jean-Loup, alors qu'on prenait l'ascenseur pour enfin arriver à la radio. Eh bien, ça veut dire que pendant 4 mois, vous n'avez pas le droit de vous exprimer au nom du parti.
Ouais, et en plus, elle faisait partie du premier cercle à l'origine. Elle est avec lui depuis une dizaine d'années.
Et cette comparaison des peines est assez troublante quand on voit qu'à la limite, comment tu dérouilles ta chérie ou tu dérouilles ton chéri si tu es une femme musclée et tu prends 4 mois. Mais si tu dis du mal du conducteur, tu prends 4 mois d'office. Et il paraît, j'ai cru entendre à travers des propos de la mère Clémentine Autain, que les réunions de parti sont assez houleuses quand elles arrivent, Autain, Ruffin,
ouais,
etc.
C'est qui le patron?
Il y a d'autres gens désaffreux, les chiens de garde de la Mélenchon, que ouais, cassez-vous, barrez-vous, créez votre parti, etc. Ambiance assez glauque, et c'est quand même assez incroyable de voir comment la Mélenchon, qui avait eu quand même le coup de génie de réussir au forceps de créer la NUPES,
il pète
son jouet comme un gosse capricieux.
Quelle surprise! Je suis surpris, et je me souviens à l'époque former la NUPES, on en parlait hors micro, bref, et on s'était dit qui c'est qui va casser la NUPES, et le nom de Mélenchon est revenu. Moi, je voudrais juste dire 2 choses. Première chose, moi, je vais dissocier Mélenchon, comment vous dire, espèce de monarque un petit peu antisémite, voire carrément antisioniste, mais qui aime bien les musulmans et surtout les résistants islamistes du Hamas, hein, qui font de la résistance face au peuple israélien. C'est quand on sort des conneries comme ça, je ne comprends pas. Pour résumer, là, en 2027, Macron pourra pas se présenter. Qu'est-ce qu'il y a à gauche, là? Bon, la grande gueule, c'est Macron. Ses idées, je parle des idées ou du programme, c'est pas con non plus, quoi. C'est pas du tout ça que je remets en cause, quoi. Mais si le personnage continue à se suicider lui-même, mais bon.
Bah, qui se suicide?
Ouais, mais il va suicider.
Là, il s'aborde. Là, il se suicide pas, il s'aborde.
Suicider la France insoumise. Et là, je parle des vraies personnes, vrais militants, j'en connais autour de moi qui vraiment y croyaient dur comme fer, quoi. Et c'est bizarre, ça fait très longtemps, je crois que c'était en 2017 ou 2016, je vous avais dit, Roger, je l'aime pas ce mec-là, je l'aime pas, rien de précis, rien de défini, et je comprends pas, et comment on peut dire des conneries pareilles, je suis désolé. Et on parlait justement de la marche antisémite.
Pas la marche antisémite.
Contre l'antisémitisme, je suis désolé. Mais
vous imaginez la gueule d'une marche antisémite.
Et là, on parlait, vous parliez, pourquoi on ne ferait pas...
Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est ma chérie qui a une excellente idée après le jeu des 1000 euros, parce qu'on coupe assez vite. On écoute le jeu des 1000 euros, on s'engueule, après on écoute un peu les infos, et puis les infos étant tellement douloureuses qu'on les coupe assez vite. Et là, c'était à cause de l'histoire de la marche. Alors, on a la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui ont dit, tiens, on va faire une grande marche contre l'antisémitisme.
Bon, bah voilà, c'est une marche.
À base, pourquoi pas, c'était même une idée vaguement lancée par le PS également. Et pourquoi pas, sauf que, assez curieusement, quand on connaît le fond idéologique du Front National, le Front National a dit « Ouais, nous aussi, on dansera de la marche contre l'antisémitisme ». De ce fait, la France Insoumise et les socialistes disent « Eh ben, nous, on n'ira pas ».
Ah ouais, mais c'est quoi,
les
c'est
cocos, curé, quoi. Les socialistes, c'est pareil, ils disent pareil. Les cocos disent, comment dirais-je, que eux, ils vont peut-être y aller, mais il faudra pas que comment le Front National est fâché. Et ma chérie proposait, enfin, elle me proposait l'idée qui est pas con et qui rappelle un peu ce qu'on a connu dans les années 80, on avait encore des cheveux à l'époque.
Bah, vous,
les marches Black Blomber. En fait, pourquoi pas faire une marche, mais contre tous les racismes, point barre. Et là, on verra si, au nom d'une marche contre toutes les formes de racisme, eh bien, on verra si le Front National osera se présenter. Je pense que là, il aurait beaucoup plus de problèmes quand on connaît son amour immodéré pour les gens du Maghreb.
Et là, je vous avais même répondu, en fait, ça existait, ça s'appelait Bleu, Blanc, Red, c'est les années 90.
Red, ça, c'était une compilation punk. C'était Bleu, Blanc, Beurre.
Beurre, pardon, désolé.
Black, voilà. Blanc, Beurre. Black, Blanc, Beurre,
c'était
c'est ça.
Une marche antiraciste qui a cartonné de la mort, mais de la mort, de la mort.
Ouais,
et qu'est-ce qu'il en reste
ça, c'est plus ça vers quoi il faudrait tendre, plutôt que se limiter à une marche contre l'antisémitisme, d'autant que l'État d'Israël, d'une certaine manière, on ne peut pas dire qu'il se fait de la publicité, quoi. Entre les bombardements vaguement ciblés et l'attaque au sol, plus après, qu'est-ce qui va advenir ? On est en plein hiver. L'hiver arrive.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui va advenir de la population palestinienne ? Parce que toutes les baraques sont pétées et c'est des millions d'habitants. Qu'est-ce qui va advenir de ces malheureux ? On n'en sait rien. Et on a encore un ministre israélien qui dit, qui propose que l'on utilise la bombe nucléaire pour gérer le problème de la bande de Gaza.
Il faut rappeler. Et moi,
il fait quand même partie du gouvernement de Netanyahou.
Moi, j'aime bien.
Et c'est un petit peu. C'est un petit peu. Ce que je trouve de totalement délirant, justement pour faire chier l'extrême droite, je n'ai jamais compris que fondamentalement on puisse avoir des juifs en Israël qui revendiquent des positions d'extrême droite. Quand on sait comment l'extrême droite a emmené le peuple juif vers le chaos, je ne comprends pas que philosophiquement on puisse être d'extrême droite. Et parmi tous ces gens d'extrême droite, on trouve souvent, et c'est comme dans toutes les religions, on retrouve les barbus. Alors ceux-là en plus, ils ont des espèces de papillotes.
Oui, les
ultra-orthodoxes. Les papillotes, alors ils sont mignons, les papillotes. Mais
c'est
il faut savoir quand même qu'une majorité des ultra-orthodoxes, dit les papillotes, refusent catégoriquement de s'enrôler dans l'armée. En clair...
Ils ont le droit, en plus.
Ouais, alors, en clair, ils attisent la haine entre les communautés. C'est eux qui sont les plus rétifs pour voler les terres aux Palestiniens arabes. Et... quand il s'agit d'aller au charbon, c'est-à-dire d'aller dans une armée régulière, parce que ça, c'est pas faire le coup de feu sur des malheureux quand on est à l'abri de son kibboutz illégal pour aller massacrer des Palestiniens. Ça, là, il faut s'engager dans l'armée.
La Cisjordanie, on parle de colons, c'est pas la même chose.
Ah ben ouais, mais c'est les papillotes qu'on retrouve chez les colons.
C'est péjoratif, colon. Enfin, pour moi aujourd'hui.
Et ces gens-là, en plus, refusent. Alors ils disent, y en a un qui dit, moi, je m'enrôle dans l'armée de Dieu. L'âge d'emblée Nathanaël, comme tous les jeunes garçons ultra orthodoxes de son âge. Il est dans une yeshiva, une école religieuse. Ses journées sont exclusivement consacrées à l'étude de la Torah. Dans la Torah, il est écrit qu'il faut 1000 personnes dans chaque camp, explique-t-il. Pour 1000 soldats, il faut 1000 étudiants en religion. Et ce sont ces étudiants qui, grâce à leurs prières, vont protéger les soldats qui se battent. Ah, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de prier. Et j'aimerais bien qu'ils restent dans leur communauté. J'en ai rien à battre. Mais que ces gens-là, justement, parce que le bonhomme là, d'extrême droite qui propose d'utiliser la bombe nucléaire comme dans la bande de Gaza, ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes.
Et là, ce qu'il faut bien mettre en avant aussi, c'est que le Premier ministre actuel, il l'appelle Bibi, les Israéliens entre eux, c'est l'ultra-droite. Et là où souvent, dans l'esprit de beaucoup de gens, dès qu'on parle d'ultra-droite, c'est des nazis qui veulent tuer les juifs. C'est pas vrai, parce que...
C'est des juifs qui veulent des ultra-droites, les ultra-droites juifs veulent exterminer les Palestiniens.
Soit ils veulent le grand Israël. Parce que j'ai regardé la définition d'extrême droite, et Tom peut la regarder sur le dictionnaire. Il y a plusieurs critères, en fait. Quelque part, Poutine, c'est l'ultra-droite. Il veut rétablir la grande Russie. C'est un truc
territorial. Non, il y a deux choses, à mon avis, Jean-Loup, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le nationalisme, qui est de dire votre patrie avant toute chose.
Voilà, c'est, par exemple, les résistants français, par exemple.
Là, c'est au nom du nationalisme qu'on s'est tripé durant la Première Guerre mondiale. À la différence de la Seconde Guerre mondiale, où là, on avait davantage un conflit idéologique entre des régimes fascistes qui étaient basés sur un système raciste, comment dirais-je, officiel, reconnu, totalement assumé. Et c'est ce vers quoi tend l'extrême droite israélienne aujourd'hui. Et on retrouve tous les mêmes clichés, on va exterminer là, c'est pas des juifs.
On peut rappeler aussi
ça,
que...
Ça nous renvoie, je termine, hein,
c'est mais pas
ça,
les
nous
Israéliens,
renvoie, ça nous renvoie... Ah non, c'est pas l'ensemble des Israéliens, mais bien sûr que non.
Attention, il y a contre le Premier ministre.
Bien sûr que non. Et il y a de nombreux Israéliens qui en ont plein le cul de voir les papillotes les emmener à la mort, parce que c'est quand même eux qui foutent quand même pas mal la merde. Comme, de toute façon, c'est le problème de toutes les religions, chez les extrémistes de toutes les religions.
Exact. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, avant de vous poser la deuxième question, on parle longuement, mais c'est pas inintéressant, faut pas oublier que le Hamas, ils sont pas cons, hein, que tout était répertorié, etc., entraîné, patati, patata, et ils savaient très bien que le mec d'extrême droite allait forcément réagir violemment. C'était évident, et on en avait parlé il y a trois semaines, on avait dit ça va se terminer en catastrophe humanitaire, mais ils provoquent l'extrême droite, et je comprends pas aussi.
Ah bah là, ils font le jeu.
Et je comprends pas les gens aussi, israéliens tueurs, bah ouais, c'est l'extrême droite, et d'après la loi de la guerre, ils ont le droit de se défendre. Ils ont prévenu, ils ont dit aux Palestiniens, bah vous dansez, vous partez dans le sud, mais bon, y a, tout le monde peut pas, enfin bref, c'est un tout petit territoire.
Non, c'est horrible, ce sont des millions d'habitants. Avant, c'était une prison à ciel ouvert. Là, les humanitaires, ils disent que c'est un charnier à ciel ouvert. Et cet hiver, qu'est-ce que ça va devenir? Parce que la bande de Gaza, l'hiver, ça caille, quoi.
Parce que j'aurais une deuxième question à poser.
On va peut-être pas pourrir la tête des gens, c'est déjà comme ça à la radio. Ouais.
Non, mais,
moi, j'ai des sujets beaucoup plus fun.
Ouais, mais moi, j'ai une deuxième question à poser, qui est en rapport, mais pas directement. En deux minutes, on peut la régler. Vous me promettez, Roger? Allez, un petit disque.
All right.
Eh ben, on parlera la semaine prochaine de ma deuxième question.
Je vous assure, chers auditrices et auditeurs, on en avait pour les trois quarts d'heure. Je voyais nos invités qui allaient s'en aller. On s'en fera l'objet d'un sujet. J'ai plein de nouvelles rigolotes. Est-ce que vous savez qu'on vient... allez, une petite rubrique spéciale Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. 174 millions d'euros par an. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est ce que coûte le gouvernement Borne qui bat tous les records de la 5e République, tout gouvernement de gauche et de droite confondu. Soit là, 174 millions d'euros en totale contradiction avec effectivement la promesse en... Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Vous parlez
la promesse de Macron en 2017 qui était de faire dans l'économie au niveau de la composition des gouvernements.
Mais vous regardez malheureusement tous les Jeux Olympiques, que ce soit à Londres, etc.
Ah non, mais là, ça, c'est les gouvernements. Après, je vais vous parler de JO.
Où ça devait coûter 2 milliards, je dis n'importe quoi. Ça en coûtait 5 ou 7. Après, s'ils recyclent les bâtiments pour des locations pour les plus précaires, bon, bah, pourquoi pas, quoi. Non, vous aimez pas le sport.
J'aime pas le sport.
C'est les Jeux Olympiques, quand même.
Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort. Alors bon, ça, on va dire que pour que la France gagne, pour le prix du gouvernement Borne, il faudra qu'il y ait une épreuve qui soit acceptée par les Jeux Olympiques. C'est pas encore gagné. Mais plus précisément, au niveau des Jeux Olympiques, il faut quand même savoir que le gouvernement s'apprête à faire passer un décret qui va supprimer l'obligation légale du repos hebdomadaire pour tous les salariés embauchés dans le cadre des Jeux Olympiques sans compensation. Alors c'est marrant comment, au nom de l'idéal olympique, il va falloir travailler 7 jours sur 7. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure vos putains de jeux là.
C'est les bénévoles ou les salariés?
Non, salariés, je vous parle de salariés là. Les salariés n'auront pas le droit au repos, n'auront pas le droit à la compensation, et c'est un décret qui passera, puisque un décret, ça passe obligatoirement. Le code du travail se remettra-t-il des Jeux Olympiques? C'est pas sûr. Toujours, dans le cadre de l'organisation des JO, bien que Estanguet, Tony, le patron, soit grassement payé, ce qui lui a valu un rappel à l'ordre de la Cour des comptes qui dit mais ah ouais, vous prenez tant que ça, Estanguet. Il dit ah mais attendez, vous imaginez la part. Ah ben, il a dû en rembourser. Il a remboursé un peu, 2-3 bricoles. Il faut quand même savoir qu'ils sont dans l'incapacité, vu un peu le climat politique, le climat anxiogène, Vigipirate plus, eh bien, il faut des agents de sécurité. Mais comme ils n'en trouvent pas assez, parce qu'il faut quand même qu'un agent de sécurité ait une vague certification, c'est pour cet été, hein.
Oui, je sais.
Ah,
ouais.
C'est pour cet été.
Enfin, ils le
et donc, du coup,
10 ans.
C'est plié, il n'y en aura pas. Aussi, le comité des Jeux Olympiques envisage de faire appel à la police et l'armée. Sauf que là, ce n'est pas le même tarif. Le repos compensatoire, là, il est accordé, parce que le décret, naturellement, ne s'appliquera pas ni aux forces de police, ni aux forces de l'armée.
L'armée, si.
Et ça va coûter, un bras. Ça va coûter un bras, et ça sera transféré au JO. Le JO va dire, OK, on est en déficit, et qui va transférer ça à qui ?
À nous.
Voilà.
Oui. Mais à chaque fois.
Plus vite, plus haut, plus fort. Et c'est bien pour ça que nous avions reçu, il y a quelques années, avant que la France soit élue, le comité anti-Jeux Olympiques. On a perdu, tant pire, c'est comme ça.
Vous n'êtes pas un sportif. Je le savais, Dès qu'on parle de Coupe du Monde de rugby, oh, je veux jouer sur Instagram. Dès qu'on lui parle de la Coupe du Monde de football, j'étais en train de lire une BD. Vous n'aimez pas le sport.
Alors, est-ce que sportif, c'est regarder des matchs où des gens se défoncer
du MMA?
Non, pas ceux de le
MMA. Ça, c'est une détente, ça.
C'est des gens qui suent pour vous. Vous n'êtes pas plus sportif que moi parce que vous voyez gens suer pour vous.
Je sais.
Je voudrais quand même vous le rappeler.
Tom,
alors, c'est pas parce que vous mettez votre jogging quand vous regardez les sportifs que vous faites du sport.
Tom, qui est beaucoup plus sportif que nous. Je pense qu'on est dans le trip sport, que ce soit amateur ou semi-pro, etc. Ça doit être un trip quand même. Les gens, ils font pas ça uniquement pour s'amuser, parce qu'on y prend goût.
De qui vous parlez, des sportifs ou des supporters?
La course à pied, les choses comme ça.
Bien sûr qu'on y prend goût, parce qu'en fait, on voit que ça améliore plein de choses.
Ouais.
Ne serait-ce que dans la tête, le corps, on va mieux, on est moins malade.
Ah, c'est chiant, on dirait un mec qui vient d'arrêter de fumer, qui dit
« Ouais, mais c'est vrai. »
Il est sportif, qu'est-ce que je vous dise. Moi, je suis spectateur, pas sportif, mais je voulais juste...
Et vous me critiquez de pas être sportif.
On se met un petit disque ou vous avez encore des choses de mal à
dire ? Saloperie, est-ce que j'ai un petit truc ? Si, tiens, ils ont viré, ça y est, il est viré. Pierre-Louis Bras, ça vous dit rien, Pierre-Louis Bras?
Bien sûr que non.
Eh ben, c'est dommage parce que c'était le président du CU qui est COR, le comité d'orientation des retraites. Celui-ci qui disait que la réforme de Macron sur les retraites était totalement injustifiée. Aussi, on l'a remercié pour l'efficacité de son travail et on vient de le virer et pour le remplacer par un petit gars qui est un économiste. On nous rassure en disant qu'il est économiste, mais il est surtout macroniste. Et je terminerai avec une brève de BFM TV. BFM TV lave la tête plus propre. Selon un récent sondage, 84% des Français pensent qu'il devient nécessaire de cotiser à une retraite complémentaire pour financer sa retraite. Ce qui devient, chez les journalistes de BFM, 84% des Français sont favorables à la retraite par capitalisation. Ce qui n'est pas tout à fait quand même même chose.
Ça dépend dans quelle tranche vous
trouvez. Non, il n'y a pas d'histoire de tranche. On demande à des gens, par exemple, imaginons, c'est des conneries, hein, mais vous avez 30 ans. Est-ce que vous envisagez de prendre une retraite complémentaire parce que vous ne faites pas confiance au système de retraite actuel?
Il y en a qui en prennent, attention, non, ça marche.
Voilà, hein. Vous allez dire oui. Et ouais, ça ne veut pas dire que vous êtes favorable à ça, vous faites contre bonne fortune.
Complémentaire.
Voilà, mais contre bonne fortune, bon cœur. Mmh. C'est-à-dire que, ma foi, comme vous ne faites pas confiance au système de retraite, on vous fait travailler de plus en plus longtemps, vous dites que si vous cotisez à côté, vous pouvez peut-être arrêter avant. Hein. Sauf que ce n'est pas la même chose de dire que être favorable à un système que de dire que effectivement pense qu'il devient nécessaire. Parce que la question qui a été posée, c'était ça. Pensez-vous qu'il est devenu nécessaire de cotiser à un système de retraite? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais...
C'est une manière de manipuler l'affirmation.
D'un autre côté, si vous gagnez 10 000 euros par mois, oui, vous prenez...
Jean-Loup, ce que vous ne comprenez pas, ça ne remet pas en cause le fait que vous choisissiez ou pas la retraite complémentaire. Mais c'est le sens du sondage qui est transformé pour dire quelque chose de totalement différent.
Il y a eu un moment de silence, quoi. Mais...
Non, bah oui, je vois ça.
Bah ouais, parce que moi, je vous parlais tout simplement de retraite complémentaire.
Mais c'est parce qu'à chaque fois, vous parlez d'autre chose. Je vous parle d'un truc, vous parlez d'autre chose.
Bah, j'ai pas bien compris, alors vous pouvez me dire.
Eh ben, c'est pas grave. On espère que les auditeurs aient compris.
On s'est pas compris.
Ne regardez pas, je vous départagerai pas.
Bah oui, on s'est pas compris. C'est pas vous qui allez commencer à foutre.
Seems alright when I'm not there. Roger, Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête, Oh, ça c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps, et en plus il est vachement douillet, puis y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh les gars, vous avez pas entendu quelque chose? Bah non, quoi. Bah une sorte de grognement, bah non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, bah je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique Les animaux.
Eh bien voilà, ce soir, nous recevons en coordination, une coordination efficace, je lis l'article dans ma baignoire et Jean-Loup appelle. Nous recevons ce soir Laurent et
Yann.
Yann, on va y arriver parce que on en plaisantait en début de l'émission parce que j'avais du mal à prononcer votre prénom. Et moi, ce qui m'a plu, c'est justement cette association des gamelles, les gamelles pleines. J'ai regardé, il y en a un petit peu partout en France et j'ai trouvé l'idée géniale. Je n'aurais, moi qui aime bien les bestiaux, et quand je dis bestiaux, c'est pas péjoratif, je n'aurais jamais pensé à aider justement, on va dire les SDF, mais pas que, hein, parce que j'étais sur votre site, c'est très complet en fait, vos différentes actions, quoi. Mais et j'aimerais bien qu'un de vous deux nous présente en fait, c'est quoi en fait et comment ça s'est créé. Je parle des gamelles pleines ou les gamelles pleines à l'origine. Laurent?
Ouais, alors à Rennes, c'était il y a 9 ans précisément, là, ce sera la 10e année l'année prochaine. Donc c'est Charlotte Verrier du coup qui a créé l'association sur Rennes. C'est Johan à Caen qui l'a créé à la base.
Ouais.
C'est une histoire entre lui et son chien de base. Et il a voulu aider un petit peu plus après les personnes qui étaient en difficulté avec leurs animaux, leurs chiens plutôt avec les personnes, son domicile fixe, donc plutôt
au départ, ouais, d'accord.
C'est ça. Et puis après, donc Charlotte a dû entendre parler de cette association, elle l'a créée à Rennes.
Donc, parce que c'est une asso, enfin presque nationale, enfin en tout cas qui a plusieurs antennes.
Il y a 9, hein, si ma mémoire est bonne, en France.
Ouais, doit y avoir donc Caen, Rennes, Paris, Toulouse, Marignane à côté de Marseille.
Montpellier,
ouais, il y a pas mal d'antennes. Pas dans toutes les villes, mais ça se développe un petit peu. À Nantes, c'est en train de se développer, lentement, mais sûrement. Donc, ouais, dans pas mal de villes. Et donc, 9 ans en Rennes.
Alors, pour parler des SDF, donc, alors, le but, c'est de faire enfin, ce qu'on appelle des maraudes, aussi des points fixes, parce que c'est vrai qu'il y a plein de détails que je ne connais pas, et je n'aurais jamais pensé aux chiens des SDF, je dis ça pour simplifier, ou des précaires. Donc, il y a tout un accompagnement qui n'existait pas.
En quoi ça consiste ?
En fait, on essaye de faire les maraudes toutes les semaines, pour rencontrer directement les personnes dans le besoin.
Ouais.
C'est là où on crée notre lien avec cette personne-là.
D'accord. Hein.
Et ensuite, ils nous expliquent leurs besoins. Ouais, et donc, on va vers, pour les aider au niveau pour leurs chiens, dans tout ce qui est problème vétérinaire pour leurs chiens.
Ouais, bah ça, on va en parler tout à l'heure.
Ou tout ce qui est croquettes aussi.
Bah, manger,
alors,
quoi.
On a été très vite, en fait, parce que quand mon Jean-Loup est tellement content de vous recevoir, il espère que vous allez lui prêter
un
petit
chien. Ah oui,
c'est
vrai que je trouve les deux géniales.
Comment vous êtes tombés tous les deux dans la marmite de Gamelle Pleine?
Bah, moi, c'était j'avais un peu de temps consacré dans une assoce, parce que, enfin, je voulais me mettre dans une assoce et je les ai croisés dans la rue et je me suis renseigné sur eux.
En train de faire une maraude.
Une maraude, ouais.
Parce qu'on fait pas ça quand même par hasard, c'est quand même assez particulier. On s'occupe des gens dans la détresse, c'est pas forcément hyper fun toujours.
Mais leurs animaux.
Mais
quoi,
en plus de ça, le concept des animaux, c'est quand même pointu.
Mais ouais, c'est ça, c'est
Laurent.
Les personnes qu'on rencontre dans la rue, quand on va en maraude, on va voir tout le monde. En soi, lors des maraudes, on va voir toutes les personnes vers qui on peut aller. Et celles qui ont un chien, en fait, ça facilite un petit peu l'approche. C'est des personnes avec qui on ne va pas forcément parler directement.
Ouais,
et
ouais.
Du coup, le fait d'avoir un chien, ça va faciliter l'approche. Du coup, nous, on va leur proposer toute notre aide, les missions spécifiques qu'on a. Donc, c'est vraiment facilitateur.
C'est ce biais-là qui est assez intéressant. Alors, on n'est pas une association de protection animale, on est vraiment là pour le binôme, donc le maître et le chien.
Et le chien, ouais, ouais.
Alors, justement, sur ce fameux binôme, pourquoi, effectivement, on a toujours... moi, je disais à mes mômes, ça m'a fait rire, quand ils ont ouvert au bout de la rue, chez moi, un petit supermarché, pouf, aussitôt, il y a eu 2-3 punks à chiens, on a l'expression punk à chiens. Vous savez, et ça m'a fait penser au décor qu'on peut avoir pour les maniaques qui reconstituent des trains en miniature, puis mettent les petits voyageurs dans les gares. Nous, à Rennes, moi, si je devais mettre des petits bonhommes, dès qu'on met une boutique, pouf, il y a 2-3 punks à chiens. Pourquoi, effectivement, les gens qui sont à la rue, qui sont précaires, etc., ont souvent des chiens? C'est une question que je me suis toujours posée.
Et il me l'a posée, et on n'était pas d'accord. Ici, il parlait, c'était plutôt chien de défense, je simplifie les termes. Et moi, je disais...
Enfin, défense, pas qu'il allait bouffer
de protection.
Le premier, un chien qui... Ouais, qui vous, parce que c'est quand même des clébards, c'est pas du petit yuki. En général, c'est des bestiaux qui sont genre milou, enfin...
Je disais que c'était, je pense, essentiellement le côté affectif. Alors, si vous pouvez trancher en disant que j'ai raison...
Ouais, franchement,
enfin, j'en sais rien, c'est une question que je vous pose.
Enfin, il y a le côté affectif, et il y a le côté aussi, faut pas se leurrer, c'est le côté aussi protection. C'est toujours un peu.
C'est-à-dire, quel type de protection peut proposer. Quel type de protection apporte à un animal, aux gens qui vivent à la rue, hein?
Ben ouais, si c'est des gros chiens, c'est plus souvent des gros chiens. Du coup, protection dans le sens où il va défendre le territoire. Souvent, ils ont plusieurs chiens.
Ouais.
Alors, c'est vraiment après spécifique à chaque personne. Il y en a qui vont faire toute leur vie sans chien. C'est vrai qu'après, c'est la question qui va se poser un petit peu pour chaque personne. Le côté affectif est quand même très, très prenant.
Je pense.
Les deux sont tout autant...
Oui, les deux sont liés.
À différencier.
Mais moi, alors, c'est marrant parce que ce n'est pas des chiens qui vont être agressifs quand vous passez à côté.
Ouais, c'est vrai, ils sont sympas.
Mais c'est quand même des chiens qui sont quand même, on va dire, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais qui peuvent, sur qui le maître peut compter.
Mais,
je sais pas.
Ouais, alors, si par exemple le maître est dans un état un petit peu alcoolisé,
bon.
Du coup le chien, il va être là, il va pouvoir un petit peu...
Une présence, quoi, tout simplement. Là.
Ouais, c'est exactement ça, et puis c'est vachement important, du coup, dans ces cas-là, pour le maître. En cas de défense, s'il y a quoi que ce soit, et puis au quotidien aussi, c'est vraiment une deuxième famille, en fait. Enfin, pas une deuxième famille, c'est leur famille.
Un compagnon à quatre pattes. Voilà.
C'est exactement ça, ouais. C'est leur compagnon du quotidien qui... qui fait office de famille. Donc il y a leurs collègues de rue, il y a du coup leur chien qui est leur...
Parce que c'est un milieu qui peut être brutal. C'est sur par les ZF.
Le milieu de la rue, c'est le milieu le plus brutal qui soit, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis par exemple, s'il y a un souci, le chien généralement va se réveiller avant. Ou même des fois, il l'utilise aussi. Ça tient chaud, quoi, des fois aussi.
Bah, c'est vrai.
Ouais.
Il joue son rôle de gardien, tout simplement.
Parce que je vais fouiller dans votre sac, vous dormez à la rue sur deux cartons, je m'approche pour fouiller dans votre sac, le chien peut grogner, réveiller son
chien. Il va grogner, censément. Enfin, je sais pas.
De quoi ?
Je veux dire, est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Je veux dire, j'essaye de fouiller dans votre sac, pour vous chipper des trucs.
Bon,
et puis, hop, le chien, votre chien va me grogner dessus.
Le chien se réveille. Quoi,
Qu'est-ce qui se passe en cas d'interpellation ? Imaginons une personne, Jean-Loup, avec son gros chien, Bobby.
Ouais.
Mauvais, il est mauvais, son chien. Mais le patron est mauvais aussi.
Mais non, il est gentil comme tout, mais moi, j'ai le vin mauvais.
Voilà, donc Jean-Loup se fait arrêter parce qu'on peut pas le laisser dans la rue parce que vraiment il agresse.
Il y a le vin très mauvais.
Que devient Bobby ?
Voilà.
C'est assez compliqué. On a différentes histoires. Des fois, les policiers, ils vont mettre le chien à la fourrière. Et du coup, le maître va pouvoir aller les récupérer en moyennant finance, etc.
Voilà, en moyennant finance.
C'est ça. Des fois, ce qui est arrivé récemment, les policiers vont confisquer les chiens. Et pour les maîtres, ça va être impossible de les retrouver. C'est arrivé là récemment. Du coup, c'est pour ça que j'y pense. Quand c'est des chiots, etc. Donc voilà, c'est vraiment spécifique aux policiers, à la personne dans la rue. Il peut y avoir plein de cas de figure, mais quand même, la plupart du temps, c'est le policier met le chien en fourrière. Il y a une histoire aussi comme quoi, quand il y a un chien, ils peuvent pas forcément embarquer ou mettre...
Ça, c'est une légende urbaine ou quoi, ça
C'est une bonne question.
Vous savez, moi, une vieille légende urbaine, c'était, on me disait, ils ont des yinches. Un ami bien informé m'avait dit, je parle pas de vous, attention. Hein. Oh. J'ai dit bien informé. il me disait, ils ont des yinches parce que comme ça, on peut pas les embarquer parce que les flics savent pas quoi faire des yinches. Un truc comme ça, c'est des conneries, ça.
Moi, je pense que c'est des conneries, finalement. Il doit y avoir quand même un certain côté.
Vous avez
même
entendu parler de ça?
La police. Mais oui, on a entendu parler de cette histoire. Je pense qu'ils peuvent trouver des solutions à ça, en tout cas.
Et une petite question, panier de chenilles, c'est payant, c'est pas donné, hein, là, si j'ai pas de bêtises. C'est pas 10 euros qu'on va vous demander pour récupérer votre chien.
Et ben du coup,
est-ce que c'est une bonne question?
Tout à fait. Nous, on a eu des problèmes financiers à cause de ça. C'est 10 euros par jour par chien. Donc voilà, pour les maîtres, s'ils veulent être hospitalisés, et ben du coup, c'est 10 euros par jour par chien, donc 300 euros par mois. Donc tout de suite, c'est très compliqué
de
pouvoir, tout simplement. Donc ça bloque beaucoup de monde. Ouais.
Alors est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus? Pareil, je reviens à l'exemple de mon ami alcoolique.
Est-ce donc elle va mauvaise.
Elle va mauvaise, surtout. Et est-ce que vous avez des contacts avec la police pour, par exemple, est-ce que la police vous appelle? Bon, il y a machin, Jean-Loup, on l'a encore ramassé, encore plus mauvais que d'habitude.
Il y a Bobby, on ne sait pas quoi en faire.
Éviter la fourrière à Bobby. Est-ce que vous avez des contacts pour éviter, parce que Jean-Loup, c'est un de vos vieux clients, vous savez qu'à chaque fois, Bobby, tous les 15 jours, là, est-ce que vous intervenez, la police vous contacte là-dessus? Est-ce qu'il y a un lien avec les forces de police? Non.
Pas vraiment. Dans l'urgence, c'est plutôt la ville de Rennes, ou la fourrière directement qui va gérer. Nous,
mais là,
après,
il y a tout de suite des frais.
Pour récupérer le chien. Et nous, on peut aider justement à aller récupérer le chien.
C'est pour ça qu'on pousse en fait les personnes à bien identifier leur chien. Comme ça, après, si les chiens ont des papiers, ouais, comme ça, on peut retrouver le nom et le propriétaire du chien. Quoi.
Une petite question, on va se mettre un disque. Vous êtes combien à Rennes dans l'association?
On est à peu près 15 bénévoles, à peu près.
15?
Ouais.
C'est pas 15 lourd.
Bénévoles. Moi, si, c'est pas mal parce que c'est quand même que Rennes, je dirais, et 15 bénévoles, sachant que finalement, il va y avoir plus de gens inscrits, mais c'est, quand vous dites 15 bénévoles, c'est 15 qui sont vraiment sur le terrain.
Voilà, qui sont vraiment actifs, quoi, voilà. qui font des maraudes ou des.
Ouais, mais vous faites pas ça tous les soirs, en fait. Y a des, c'est humain, vous avez une vie aussi à côté.
Ouais,
quoi,
ouais.
Moi, je trouve que c'est pas lourd, mais quand les gens vont écouter l'émission, il y aura au moins 30 la prochaine fois.
Ils recherchent des bénévoles, hein, si vous voulez faire le 7e.
Je sais, j'ai vu ça, des familles d'accueil. Mais le problème, c'est que j'ai un chat. Et les chats, ils sont particuliers, ils sont extrêmement territoriaux. Ils aiment pas. Hein, ils aiment pas dès que même un autre chat, ça se passe pas bien. On se met un petit disque et j'aurai plein d'autres questions à vous poser. C'est parti.
tête à vous raconter des conneries.
Alors moi, j'ai une question, parce que nous sommes toujours avec Laurent et son collègue...
Ion,
bien sûr, là, pour parler de l'association Les Gamelles Pleines. Et alors, je reviens sur les... Bon, je parle des SDF, mais bon, il y a d'autres cas de figure aussi où vous intervenez, c'est ça qui est intéressant. Moi, quand je vois les chiens de la plupart des SDF, j'en vois pas. Aucun qui est maigre, qui est maigrichon, qui est mal au point, ils ont l'air de... On s'occupe d'eux, quoi, là,
ouais,
dans le sens où on les nourrit.
Ouais, en fait, ils prennent mieux soin de leur chien que d'eux-mêmes. C'est ça, donc ils mangent même plus que leur maître.
Et ça coûte... Enfin, c'est pas donné...
Ça m'arrive d'être interpellé à la porte du petit supermarché, là, à l'angle de la rue, et les gars me demandent, en fait, est-ce que tu peux me prendre un paquet de croquettes, quoi. Alors, faut pas prendre n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce que vous conseillez, si vous voulez rendre service à quelqu'un qui est à la rue avec ses clébards, qu'est-ce qu'il faut y prendre comme...
Pas hésiter à lui demander directement en fonction, il pourra répondre, c'est lui qui répondra, enfin la personne en tout cas qui répondra le mieux. Après, n'importe quoi en fonction, les croquettes, c'est vrai que c'est assez, en général, assez...
Basique.
Ouais,
ça se conserve.
Ouais, ça se conserve plutôt pas mal sur plusieurs années, puis même quand les dates sont passées, ça se conserve encore un certain moment.
On peut continuer.
Donc ça, c'est pas mal. Ouais.
Alors, une autre question que je voulais vous poser, parce que vous assurez aussi, alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant, les soins. Et moi, je hurle, et Roger peut le confirmer.
Mais je hurle aussi. Hein.
J'ai amené mon chat une fois par an pour son contrôle technique, quoi. C'est-à-dire, elle pèse, elle regarde les dents, fait son vaccin.
Thermomètre dans le cul.
Voilà.
Sans le prévenir.
Un petit vermifuge, hein, pour être sûr, et j'en ai pour 100 balles, quoi. Et j'ai souvent eu la réflexion, je dis, mais les gens qui sont au SMIG, qui sont au RSA, ou les SDF, quoi, là, mais ils peuvent pas, quoi, en fait, ils peuvent pas soigner leur animal de manière sérieuse, je parle de vaccination, petit détail, je parle du chat, et je pense qu'un chien, c'est pareil, style stériliser le chat, 120 balles. Bon, ça va, je peux les mettre, il n'y a aucun souci. Et je m'en suis sorti pour 280 balles, parce qu'il y a la puce. Hop, 80 balles, ça prend une seconde pour mettre ça dans le cou, quoi. Il y a les vaccins. Oh là 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 là. Et 280 balles pour 120 balles annoncées, je les ai mis. Mais si j'avais eu un tout petit salaire, je faisais pas stériliser ma chatte.
Ça coûte super cher. Après, on a vraiment tout type de personnes. Donc les personnes à la rue, les personnes précaires, mais qui ont un logement aussi, il y a vraiment tout type de personnes. Bon, nous, c'est quand même surtout les chiens qu'on a déjà rencontrés ou sur demande des travailleurs sociaux. Et du coup, effectivement, ça coûte super cher. Donc là, en ce moment, on met en place une campagne de stérilisation gratuite. Donc pour toutes les stérilisations, on fait ça donc gratuitement, mais sur demande d'un travailleur social. Après, on fournit en croquettes donc lors des maraudes des différents partenaires.
Vous
comme
avez
le
des partenaires de fournisseurs
on
de
a parlé hors micro.
Carude, Croix Résistant, Cœur Résistant, la Croix Rouge aussi régulièrement. Donc, y a ça et on a pas mal de possibilités. Alors pas de payer complètement, mais de prendre en charge une partie des frais pour les vaccins, identification, etc. Donc voilà.
Et la question qui tue, parce que on a eu deux assos qui s'occupaient.
On aurait pu en avoir bien plus si on l'avait écouté. On serait la
CIA. Mais j'aime bien les bestiaux.
C'est pas la CIA. Comment ça s'appelle là où ils mettent les bêtes? La SPA.
Ah non, mais c'était sympa. Là. Bah, attends, on peut rappeler. La première, c'était des flics, police, gendarmerie qui s'occupaient des animaux. Mais ils disent qu'on les trouve dans des états. C'est abominable. Et comme ils sont plus dans la campagne,
c'est vrai
rude.
Qu'on pourrait
c'est
vous rude. Mettre en lien. Oui, vous faites bien de le rappeler. Parce que comme un con, je vous ai posé la question sur le lien avec la police, il faut savoir qu'on a eu, il existe une asso chez les policiers.
Et la gendarmerie, c'est rare hein, que les deux s'unissent.
Et une brigade de protection animale qui est un peu officieuse quelque part dans la mesure où on leur donne pas véritablement de moyens d'investiguer, mais dans le cadre d'arrestation ou quand ils découvrent que tout le monde est mort, etc. Ou la mamie qui est morte. Non, mais ça peut être la mamie qui est morte dans sa maison, elle a deux chiens, voilà. Et quand il y a des policiers ou des gendarmes qui sont sensibilisés au problème, ils essayent de trouver des maisons d'accueil, etc. Et ça pourrait être intéressant quand vous filez le contact, vous pourriez écouter l'excellente émission des Green News dédiée à ce sujet.
Et je voulais
vous donnera les liens.
En revenir, parce que c'est vrai qu'on est assez bavard, au sujet qui fâche. Ces deux associations complètement différentes qui s'occupaient des chiens la plupart du temps, on leur demandait la question qui tue. Et pour le veto, alors, et moi, dans ma naïveté à la con, bah, le veto, des bénévoles stérilisés en plus, un pro, ça lui prend 10 minutes maximum, quoi. Eh ben non. Il disait, souvent paye le prix. Le sympa, il nous fait moins 10%. L'hyper super sympa nous fait moins 20%. Et vous, est-ce que vous payez les vétos? Est-ce qu'il y a vraiment des gens bénévoles, je parle des vétérinaires professionnels, qui pour un tout petit prix, parce que
vous
évidemment,
consacrez du
frais,
temps?
Alors, on a une bénévole vétérinaire. Donc, qui vient là depuis récemment au Maraude. Donc, ça, c'est vachement pratique quand ils ont des questions.
Ah, bah, bien sûr,
c'est parfait. Et on a un vétérinaire partenaire. Nous, tous les soins vétérinaires, stérilisation gratuite, etc., qu'on fait, c'est avec ce même vétérinaire-là. Et c'est lui qui fait les soins. Et nous, après, on prend en charge une partie juste des soins. Et il nous fait des prix déjà.
Il vous fait des bons prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Ouais. Bah, vous êtes un des premiers. Et alléluia, Dieu existe, entre guillemets. Il y a des vétos qui font du social, quand même.
Vous êtes né sous une bonne étoile parce que vous avez comment participé à un budget participatif. Vous n'avez pas été élu, mais la mairie de Rennes a trouvé quand même que votre projet tenait la route et elle vous a offert une cabiette.
Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que c'est vrai que c'est sympa, du coup, effectivement, parce que je crois que derrière ça, je ne vais pas dire que vous avez couché, hein. Attention. Je dis qu'il y a aussi le côté pragmatique de la mairie de Rennes, dont certaines mairies parfois aussi font preuve. C'est-à-dire que, effectivement, le problème des yinches, sachant, et alors je suis tombé sur des statistiques assez affolantes, mais il faut quand même savoir que à Rennes, en ramenant le chiffre au nombre d'habitants, il y a plus de personnes à la rue à Rennes en 2023 qu'à Paris. À Rennes, 220 000 habitants comptent au moins 2000 personnes à la rue. Paris, 2 millions d'habitants en dénombreraient 3000. Selon le comptage effectué lors de la dernière nuit de la solidarité en février 2023, soit quasiment, un SDF pour 100 habitants à Rennes, 1% contre 0,14% à Paris.
Vous savez pourquoi il y a moins de SDF à Paris? Je dis pas les conneries.
Ah bah ça, c'est les Jeux Olympiques.
Il faut les virer.
Pour que vous puissiez dans votre salon regarder
les touristes,
effectivement plus vite, plus haut, plus fort.
Et l'impression que ce soit propre.
Il y a beaucoup de monde. Et la camiette, effectivement, je pense que la ville de Rennes a fait preuve de pragmatisme en se disant beaucoup de gens à la rue, en plus qu'à Paris d'ailleurs, apparemment, bien plus qu'à Paris. Et il faut faire quelque chose avec les yinches. C'est quoi vos contacts avec la mairie? Qu'est-ce qu'ils vous ont offert, du coup, la camiette? Ah ouais, c'est génial.
Ouais, il était aménagé par la mairie, du coup.
Alors, c'était quoi l'aménagement pour...
C'est deux boîtes à chiens derrière. C'est un kangou aménagé avec deux boîtes à chiens, pour tenir les laisses et tout ça également.
Et alors, ça sert à quoi, en fait?
Il sert à quoi?
Pour le moment, on s'en sert plus pour déplacer les croquettes, pour récupérer nos croquettes.
Ouais, ouais.
Mais à long terme, si on a ce besoin-là, ça serait pour garder le chien.
Plutôt qu'il aille au chenil, quoi, par exemple.
Pendant que le maître... pour les démarches administratives.
Ouais, démarches administratives. Vous avez un chenil, d'ailleurs?
Les rendez-vous médicaux, etc. Et bien, justement, il y a un projet de... Charlotte, qui a un projet de pension canine en dur, parce que là, on ne peut plus, nous, du coup, financièrement, financer donc les pensions canines à 10 euros par jour. Donc, il y a ce projet-là qui est en cours, qui n'est pas forcément encore...
finalisé.
Tout à fait. On ne sait pas, du coup, où sera le terrain. Donc, voilà, l'étape n'est pas encore... on n'est pas encore à la première étape, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quand même dans le bon... c'est quand même sur de bons rails, c'est comme ça qu'on dit, sur de bons rails, donc voilà, voir la suite, mais c'est toujours en cours et on aimerait bien que ça se fasse. Alors c'est pas forcément Gamelle Plaine qui porte le projet, mais voilà, c'est...
Pourrait y avoir d'autres... Est-ce que vous avez des liens avec la SPA, par exemple?
Alors on a des liens avec la SPA, ils nous donnent régulièrement des croquettes, plus de cet ordre-là, où des fois on peut aussi nous signaler des chiens qui vont pas très bien. Bon, là on va réorienter vers la SPA. Mais voilà, c'est surtout dans ce cadre-là.
Et la SPA qui sont archi pleins aussi, il faut le préciser, quoi. Ils ont souvent des problèmes de manque de place, quoi. Et petit passage aussi, il y a un paquet de petites associations. Vous, c'est les Gamelles Plaines, s'occuper des chiens des rues, entre guillemets, enfin des SDF. Mais il y a des petites associations qui s'occupent pour adopter des chats, des chiens, etc. Et il y en a un paquet, en fait, qui se multiplie.
Alors, est-ce que vous travaillez sur le placement des bestes, comment? C'est-à-dire que mon vieux Jean-Loup, vraiment, là, il ne peut plus s'occuper de son chien, parce qu'il passe son temps en prison.
Bah, c'est compliqué. Enfin, allez-y.
Et est-ce que, dans ce cas-là, Jean-Loup, il vous dit, il devient raisonnable, entre deux crises de lucidité, il vous dit, Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il y a c'est possible
un système d'adoption en fait, ouais. Ou alors vous n'avez pas le choix.
Ouais, on fait des familles d'accueil, donc on a quelques bénévoles familles d'accueil. On recherche toujours d'ailleurs des bénévoles dans ce cadre-là, enfin, dans tous les cadres.
Ça va être bien, on mettra le lien à la rade sur le blog. Le blog, personne ouais. ne lit, mais. Non, mais
après,
on
c'est
vous
pas
écoute.
Pour le, l'adopter, quoi. C'est juste pour, le, garder, pour le garder.
C'est le garder, c'est pas l'adopter.
Ouais, non. Après, oui, si la personne veut se séparer de son chien, ben on lui conseille de le laisser l'aspect.
Parce que c'est des bestioles assez cool, comment, finalement. Alors, c'est une espèce de. Moi, ça me fait rire parce que c'est une espèce de race de bâtards un peu indéterminée. Un mélange de bergers allemands dégénérés avec d'autres bestioles qui ont des oreilles parfois trombantes. Ouais, du chien type. Vous voyez, c'est quoi le type moyen, c'est quoi le type du chien des gens à la rue?
Enfin, ouais, personnellement, on a jamais eu trop de on n'a jamais eu de problème avec des chiens dans la rue.
Ouais, ils sont pas agressifs, quoi.
Ouais, fait,
c'est ça qui est assez curieux parce qu'ils sont dans un univers assez rude. Alors si parfois, ça m'est arrivé de voir des bastons entre yinches de...
Ouais, bah c'est la violence de la rue. Et puis entre les maîtres aussi. Mais du coup, c'est des fois des familles de chiens, donc les chiens en font des portées, ils connaissent les grands-parents, ils connaissent les sœurs, les frères, et du coup, c'est des familles de chiens. C'est beaucoup comme ça, ils se les prêtent, etc.
D'où l'intérêt de la stérilisation.
D'où l'intérêt
de la stérilisation. Ça coûte une blinde, une stérilisation. Alors, puisqu'on parle d'argent...
Termine sur la... Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on ait une stabilisation sur une race de chiens idéale pour quand on est à la rue, une sorte de chien de punk, le berger de punk à chien?
Le pitbull, le pitbull est bien.
Mais non, mais je vous dis pas. Non, justement, ils sont gentils, tu vois, une espèce de chien cool, un mix entre le labrador et le chien loup.
Mais c'est déjà un petit peu ça, c'est déjà des croisements, et puis les chiens qu'on voit, c'est ça, après chaque personne a le chien qui lui correspond
Moi je trouve ça très rigolo parce que ils ont toutes les couleurs, ils ont toutes les formes.
C'est des bâtards. Hein.
Alors là, c'est quoi la moyenne? Normalement c'est un, mais un jour j'étais avec ma femme, et contrairement à ce que dit monsieur, je fais du sport, j'allais à la piscine moi monsieur, rue Saint-Georges.
Bah oui.
Et je montais décorée, pour aller à la piscine, et eux, il y avait deux SDF qui marchaient sur le trottoir, un devant, un derrière, et il y avait un troupeau avec au moins 7 têtes. J'ai compté 7 têtes. Mmh. Et il y en avait un, celui d'Eric, ça me faisait rire, il avait une espèce de bâton, et je me serais cru à la campagne avec celui-ci qui emmène les vaches à traire. Et c'est quoi la
moyenne?
C'est beaucoup. C'est 1, 2. Oh, ils étaient à 2, ils en avaient 7.
C'est beaucoup, 7 à 2.
Ça peut arriver comme ça, des cas où il y a une multiplication de yinches?
Je crois qu'il y en a 1. Il y en a 7.
Ouais, mais je crois 8.
Ah ouais, 8. Ah. Mais c'est très rare. Nous, justement, on essaye de responsabiliser les personnes. D'habitude, quand on fait des tarifs, un chien, on prend 80% en charge, deux chiens, on prend 50%, trois chiens ou plus, on prend que 20%.
Ça, c'est pas con. Autrement dit, plus t'as des clébards, moins tu. Toi,
on est toujours dans ce cadre-là.
Oui, pour limiter, en fait. Ouais, je comprends.
Mais souvent, ceux qui en ont plein s'en occupent vraiment super bien, quoi.
Et au niveau pognon, parce que je suis désolé, l'heure tourne, ça leur a coûté une blinde, les vétos, mais vous avez des aides pour les croquettes, mais pas à 100%. J'ai vu des photos où vous êtes devant les devantures de supermarchés pour demander aux gens de donner d'acheter des sacs de croquettes. Comment vous en sortez? Alors déjà, est-ce que tout le monde est bénévole ou est-ce qu'il y a un permanent dans l'assaut?
Non, tout le monde est bénévole.
Tout le monde?
Ouais.
Et vous bossez de quelle heure à quelle heure, en général?
On aimerait bien avoir un salarié, par contre, ça c'est sûr.
Mais je sais, mais enfin, après, s'il sort le sou, je suppose.
Ouais, ah ouais, financement pérenne, il faut des financements qui tombent régulièrement tous les ans, sinon vous ne pouvez pas avoir
C'est ça, on est en train de voir pour ça.
Je reviens à ma question, vous bossez de quelle heure à quelle heure? C'est plutôt en soirée, si j'ai bien compris.
Bah nous, on n'a pas vraiment d'horaire, en fait. Parce que
c'est les maraudes, quoi, les jeudis soirs. Les maraudes, les jeudis soirs, ouais, de 19h à 23h environ.
Ouais, okay, minuit.
Parce que, oui, alors c'est
C'est-à-dire une soirée, quoi.
Ouais, vous avez des activités par ailleurs, parce que une maraude, si on est là pour s'occuper des chiens, on n'a pas forcément besoin de faire ça la nuit.
Mais du coup, nous, le principal, donc toutes les semaines, c'est vraiment les maraudes, le jeudi soir de 19h à 23h minuit.
Dans un lieu précis, hein.
Ouais, Rennes-Centre, donc Place de Bretagne à Sainte-Anne, c'est vraiment ça, c'est la mission
type. Et après, on a tous les événements, donc les collectes, comme on parlait tout à l'heure, les familles d'accueil, mais du coup, le chenil mobile pour garder le chien, les rendez-vous médicaux, les démarches administratives, etc.
Les soins vétérinaires, tout ça.
Les événements avec les autres associations, les soins vétérinaires. Donc, il y a vraiment plein, après, d'activités en plus à faire. Mais de base, c'est vraiment les maraudes le jeudi soir.
Mais c'est combien votre budget par an ? Par curiosité, mais je pense pas que c'est pas 400 000 euros.
On est à 10 000 euros, enfin on était à 10 000 euros. Là, il y a pas eu pas mal de changements dans le bureau, etc. Donc, on est peut-être un petit peu moins aujourd'hui. On arrive à gérer avec un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. C'est essentiellement la fédération, du coup, comme on disait tout à l'heure, qui nous finance. Un petit peu la ville de Rennes aussi, mais du coup, c'est sur un financement, enfin, c'est sur un fonctionnement que bénévole.
Vous avez retenté le financement participatif pour la pension canine?
Eh bien, il faut qu'on se planche dessus.
Ouais. Parce que, je pense que c'est très pragmatique de vouloir s'occuper de ces pauvres bêtes-là, parce que comment...
Oui, mais il faut un gardien pour ça, un salarié.
Et ça soulage... Alors, en parlant de soulagement, vous allez me dire que je suis un peu trivial, mais se soulager, ça peut vouloir aussi faire caca. Et normalement, il y a une amende de 70 euros pour chaque déjection canine. Mmh. Est-ce que ça arrive que la police verbalise les gens qui sont à la rue pour ça?
Bah en fait les gens dans la rue sont super propres avec ça. Ouais, quoi.
C'est vrai.
Ouais, ils nous demandent pas mal de sacs à crottes notamment qu'on distribue. Et
parce que j'ai pas toujours vu ça. Je peux vous assurer que parfois, je suis entre dans un quartier où effectivement j'ai parfois des migrations. Comment on appelle ça quand on va à la montagne, quand on va en haut là
Une migration, je crois.
Non, mais vous savez, pour on va. Tom, vous qui êtes un gars de la montagne.
Transhumance,
voilà. Ah, j'ai une transhumance le matin et le soir, et il m'est arrivé de voir des résultats de transhumance assez spectaculaires devant ma porte d'entrée. Je peux vous assurer que c'est un dangereux pour les vieux de mon âge.
Ouais, et n'oubliez pas aussi, quand on était branleur, des crottes de chien, c'était. Merde, j'ai marché. C'était courant de marcher sur
des personnes.
Et aujourd'hui, il n'y en a plus.
Oui, en général, c'est les personnes.
Il y en a, mais bon, c'est extrêmement rare. Et tant mieux, quoi. Là. Et donc,
c'est extrêmement rare. Je vais vous les faire bouffer, moi, les merdes que je ramasse à Rennes, vous allez voir. C'est extrêmement rare.
L'heure tourne. Alors, moi, j'ai envie d'être bénévole et famille d'accueil, parce que c'est ça aussi, vous recherchez pas forcément qui tourne toutes les soirées, quoi. Là. Où c'est que je peux vous contacter? Comment puis-je vous contacter?
Faire appel à vous.
Eh bien, sur Facebook, via Facebook ou par mail.
Il suffit de taper tout simplement association les gamelles pleines Rennes en tant qu'affaire.
C'est ça, gamelles pleines Rennes. L'association gamelles pleines Rennes du coup sur Facebook et l'adresse mail ça doit être rennes@gamellespleines.fr. Donc voilà, c'est vraiment les deux moyens, les deux canaux les plus qu'on utilise en fait.
Est-ce que vous avez déjà pensé à comment organiser deux ou trois manifestations pour faire? Parce que c'est vrai que moi, j'ai regardé ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je trouvais que l'idée était effectivement géniale. Le coup de la camionnette, encore une fois, c'est pas tous les jours que j'ai du bien de la mairie, attention. Mais j'ai trouvé ça bien qu'ils vous filent une camionnette. Je trouve ça très pragmatique parce qu'il y a énormément de bestioles qui n'ont pas forcément choisi de vivre à la rue. Là, je vous vois plein, alors que vous pourriez, moi par exemple perso, je me destinais à être champion du monde comme vous savez, de course, on appelait ça le demi-fond.
Puis vous aviez 16-17 ans, j'ai connu, c'est comme
faire,
ça là.
Je sais pas, draguer des filles, etc. Non, vous occupez de des gens, puis s'occuper de leur clébard, c'est aussi leur offrir un super confort psychologique aussi quand même, parce qu'il y a le côté quand on va se faire soigner par exemple, c'est ça. Vous pouvez nous en dire deux mots quand le Jean-Loup,
il y a des chiens qui doivent se battre, donc des morceaux,
Jean-Loup à force d'abuser, il faut qu'il aille chez le médecin, il se fait opérer, il le ouvre, ça prend un petit peu de temps, et là votre boulot c'est de trouver une famille d'accueil.
C'est sûr que les personnes ils sont, enfin il y a des liens qui se créent du coup après entre bénévoles, mais déjà entre bénévoles et personnes à la rue, donc c'est vrai que c'est vachement intéressant par rapport à ça. Ouais.
Bon, il faut qu'on garde du temps pour passer le morceau de.
Ouais, le retour. Je voudrais juste évoquer un fait divers qui a eu lieu à deux pas d'ici, au Colombier, pour résumer, où il y avait un SDF d'un certain âge qui est décédé. Il avait un chien, je ne sais pas si vous connaissez, c'était il y a un an, deux ans, quelque chose comme ça. Quoi. Et Il y a, évidemment, il y avait un peu de monde, parce que bah, quand on est SDF, on peut être aussi du quartier, dans le bon sens du terme. Et il y a eu une des personnes qui était là, qui a recueilli un chien, parce qu'il avait un chien, quoi, comme ça, tout simplement, quoi, le geste, pour pas que le chien soit mis en chenille. Le chien avait un certain âge. Bon, bah, chenille, ça se termine pas bien la plupart du temps, surtout quand le type est mort. J'ai trouvé ça super beau geste. Comme votre association, Les Gamelles Pleines.
Voilà. Je me tais. Un petit disque que je vous dédicace, The Barkers, vous allez voir, c'est très drôle.
Les Beatles Barkers. Les Beatles Barkers, oh là là.
Non, c'est The Barkers. Non.
Go, go, go!